France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous évoquons le stoïcisme, les enjeux centraux de ce courant philosophique et ses grands auteurs. Premier épisode ce matin, les fondateurs grecs anciens de la pensée stoïcienne autour de cette question centrale, que puis-je connaître ? Le stoïcisme est né à Athènes, à la charnière des 4e et 3e siècles avant notre ère. Un certain Zénon, dit Zénon de Kition, né à Chypre en -334, a étudié quelques années à l'Académie, cette école athénienne fondée par Platon quelques décennies plus tôt. Zénon n'a pas fréquenté Platon, mort avant sa naissance, ni non plus Aristote, décédé quand il n'avait que 12 ans, mais il les a lus et il connaissait leurs disciples divers. Zénon connaissait aussi un courant qui défiait gravement la philosophie, qui moquait la supposée capacité de la raison à trouver la vérité. Ce courant, c'était le scepticisme. Son fondateur, Pyrondélis, non seulement était un contemporain de Zénon, mais avait des disciples talentueux, notamment un certain Arcésilas, qui étudiait à l'Académie en même temps que Zénon. D'ailleurs, bien plus tard, Cicéron imaginera, dans certains de ses textes, les dialogues échangés entre Arcésilas, le sceptique inquiétant, et Zénon, futur fondateur d'une école pour laquelle la raison, plus exactement le logos, a une indéniable force. Zénon instituera cette école au cœur même de la ville, auprès d'un portique décoré de peintures. Voilà pourquoi elle sera appelée l'école stoïcienne. En effet, portique en grec se dit stoa. C'est une école pleine de vitalité philosophique. Ses grands noms après Zénon seront Cléante et Chrysippe. Ensemble, ces trois-là ont écrit le premier chapitre de l'histoire du stoïcisme. Et bien sûr, il y aura d'autres chapitres, d'autres grandes figures du stoïcisme qui ont vécu en particulier dans la période de l'Empire romain, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Nous les évoquerons dans les épisodes 2, 3 et 4 de cette série. Mais pour ce premier épisode, retour aux sources grecques du stoïcisme avec cette question « Que pouvons-nous connaître ?» Et puis d'autres questions, vous verrez, qui sont liées notamment au problème des liens entre connaissance et vertu. Bonjour Frédéric Ildefonse.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de philosophie ancienne et tout particulièrement du stoïcisme. Et bonjour Thomas Benatouil.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Lille, spécialisé en philosophie ancienne, connaisseur du stoïcisme notamment, mais aussi du scepticisme, dont vous nous expliquerez l'importance comme interlocuteur adversaire des stoïciens. Vos travaux à tous les deux sont précisés sur le site de notre émission. Alors ma première question à vous deux est celle-ci. De quel texte, de quel fragment disposons-nous pour connaître aujourd'hui la pensée des premiers stoïciens, Zénon, Cléante, Chrysippe, ces penseurs qui ont vécu à Athènes entre la fin du 4e siècle et la fin du 3e siècle ? Qui veut répondre sur ce corpus, en quelque sorte?
Les stoïciens sont un peu malchanceux, parce qu'effectivement, c'est important de le dire, on n'a pas gardé d'ouvrage, de traité entier pour les trois premiers stoïciens dont vous avez parlé, Zénon, Cléante, Chrysippe. On a perdu toutes leurs œuvres. Alors que si on compare avec des contemporains, par exemple pour Épicure, on a quand même la chance d'avoir gardé trois lettres de lui. Et on a dans des papyries, certes très abîmées, on a quand même des textes d'Épicure. Pour les stoïciens, on n'a rien de ça. Hein. Le seul texte complet qu'on ait d'un de ces trois stoïciens, c'est un poème de Cléante qui s'appelle L'hymne à Zeus, qui est un très beau texte, mais qui est quand même un poème. J'ai oublié le nombre de vers, mais enfin, c'est pas très long. Voilà, on n'a pas. Donc, du coup, on dépend pour connaître ces auteurs d'auteurs postérieurs, oui, qui soit résument leur doctrine, soit parfois les citent, citent des petits morceaux, souvent pour les critiquer. Donc ces auteurs qui nous permettent de connaître le stoïcisme, c'est Cicéron, c'est Plutarque, c'est Diogène Laërce. Voilà, il y en a beaucoup d'autres, c'est Galien. Mm-hmm. C'est sans doute les quatre plus importants, mais il y en a quelques autres. Et on est, et du coup, travailler sur le premier stoïcisme, c'est un peu comme reconstruire des puzzles dont on connaît pas bien le nombre de pièces, hein, parce qu'on a en fait des petits morceaux comme ça, mais on n'a pas le tableau complet, et on essaye de faire coller les petits morceaux entre eux sans savoir exactement comment ils s'articulent les uns aux autres.
Frédéric Ildefonse, ces petits morceaux, c'est votre quotidien de chercheuse. Vous êtes vraiment une grande spécialiste dans ce pays du stoïcisme, notamment du stoïcisme grec ancien. Et donc, vous travaillez avec des fragments, des témoignages ou des... Comment dire, c'est même pas des témoignages, c'est un travail doxographique, historiographique de Cicéron, plus tard de Diogène Laërce. Certains pourraient vous dire, c'est les on-dit. Comment peut-on être sûr que vraiment Zénon, Chrysippe, Léante, c'était ce qu'en disent des historiens ou des penseurs ultérieurs?
Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des biais, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut travailler avec des biais. Moi, j'ai pas mal travaillé sur Plutarque, qui est une véritable mine, mais on peut dire que c'est assez biaisé.
Plutarque, je donne les dates, né en 44, mort en 125, donc deuxième moitié du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ, c'est quand même assez lointain.
C'est un opposant. Et donc, évidemment, on peut craindre qu'il n'ait déformé certaines choses, mais en fait, c'est passionnant. C'est très intéressant, en fait. Je sais pas comment dire, c'est vrai que c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais c'est quand même intéressant de travailler sur les textes et d'évaluer aussi avec les autres textes. La cohérence possible qui se dessinait tout de même, c'est possible. Il faut dire aussi, bon, c'est pas, on sort de l'Antiquité, mais c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait très peu de choses sur les stoïciens. On avait un recueil de fragments des stoïciens anciens qui étaient les Stoicorum Veterum Fragmenta de von Arnim, donc les fragments des anciens stoïciens. Moi, je me rappelle que mon directeur de thèse, Jacques Brunjvic, m'avait donné une version, preprint, avant publication de Ulcer, les Fragmented zur Dialektik der Stoiker, les fragments de la dialectique des stoïciens, et qu'on travaillait là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose en français. En revanche, depuis, je ne sais plus quelle année, en fait, 2000, on a Long Essai de Lai, la version anglaise, et la version traduite en français par Jacques Brunjvic et Pierre Pellegrin, et ça a changé complètement la vie. C'est-à-dire qu'on a une édition merveilleuse des fragments stoïciens en langue française. Mm-hmm. Et cette traduction est formidable.
Alors merci pour ces précisions de deux chercheurs que vous êtes l'un et l'autre. Je voudrais qu'on se mette un peu maintenant dans le siècle de Zénon, c'est-à-dire la fin du 4e et le début du 3e siècle avant notre ère, à Athènes. Alors, bon, il est à l'Académie, il y a des disciples divers. On va parler un peu plus tard des sceptiques, qui sont un vrai défi. Mais je voudrais qu'on mentionne une figure qui évoque beaucoup la sobriété des stoïciens, qui eux-mêmes, vous nous expliquerez un peu comment ils vivaient, mais enfin, dans un certain dénuement, une sobriété parfois absolue. Et donc, tout cela évoque beaucoup Diogène de Sinope. Alors, Diogène de Sinope, il est mort depuis longtemps. Il a vécu bien avant Zénon. Il a fondé l'école cynique, mais son aura semble toujours palpable, n'est-ce pas, et peut-être même chez les stoïciens, il était quasi mendiant, il vivait dans la rue, tout ça. Thomas Benatoui, il intéressait beaucoup les stoïciens.
Il y a même dans les biographies de Zénon, il y a même l'idée qu'il a été l'élève de Cratès, qui est un disciple de Diogène. Donc il y a l'idée que parfois certains auteurs antiques présentent Zénon comme une espèce de patchwork entre le cynisme, l'académie et une autre école beaucoup moins connue qui s'appelle les mégariques, qui étaient des passionnés de logique et d'argumentation. Et donc Zénon aurait un peu mélangé tout ça. Hein. Et c'est vrai que l'influence du cynisme est importante d'importance accordée à l'endurance, à la vertu comme à une forme austère de vertu. Mais on dit, c'est des anecdotes qui sont intéressantes, qui ont l'air un peu comme ça, qui ont l'air un peu insignifiantes, mais qui peuvent avoir un enjeu philosophique. On dit que le problème de Zénon avec le cynisme, en fait, c'est qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de sa honte. Parce que dans le cynisme, il y a l'aspect austère, et puis il y a aussi l'aspect défi aux conventions sociales.
Est-ce que je peux vous demander juste, on le fait souvent, mais c'est nécessaire, de préciser pourquoi cette école de Diogène s'appelle cynisme? Parce que chez nous, ça a un autre sens aujourd'hui.
Alors, c'est l'idée du chien, donc y a plusieurs origines possibles du terme, mais l'une des origines possibles, c'est l'idée que le cynique est comme un chien, et donc il y a l'idée du modèle animal, et justement, le cynique prétend vivre selon la nature, et donc ne pas se soumettre aux conventions sociales. Et donc, pour être un vrai cynique, il faut être capable de défier les conventions sociales, et donc d'encourir le ridicule, la honte, parce que quand on... Et Zénon aurait eu beaucoup de difficultés avec ça, et c'est pour ça qu'il aurait quitté Cratès, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à vivre en cynique, c'est-à-dire à accepter le fait de d'être à l'écart, etc. Donc, il aurait, d'une certaine manière, certaines histoires de la philosophie ancienne présentent le stoïcisme comme une sorte de cynisme tempéré. Parce que même s'il y a des éléments importants du cynisme qui restent dans le stoïcisme, les aspects les plus scandaleux, auraient été en quelque sorte maîtrisés. Ça, c'est pour un aspect de l'éducation philosophique de Zénon, mais évidemment, il y en a d'autres. Vous l'avez mentionné, l'Académie.
Voilà, on va en parler. Mais je voudrais que vous réagissiez, vous aussi, s'il vous plaît, Frédéric Ildefonse, à cette question. Est-ce que les cyniques, donc aujourd'hui, ce mot a une toute autre signification, mais à l'époque, c'était la sobriété insolente aussi de Diogène de Sinope, c'est-à-dire les disciples de ce philosophe qui, en pleine rue, dans un état de pauvreté radicale, interpellait tout le monde. Cette figure vraiment, à la fois de sobriété et d'insolence, était importante, vous le pensez aussi, pour les stoïciens grecs?
Moi, je pense que c'était important, comme l'a dit vraiment Thomas, c'est-à-dire qu'il a une éducation variée, Zénon. Et donc, il y a du cynisme, il y a des académiciens, il y a l'académie, je veux dire, il y a... quel est le troisième, déjà?
Les sceptiques,
on va dire. Oui. Toujours est-il que le scandale va jusqu'à l'indécence.
Expliquez-nous ça, c'est très... Même avec... concrètement, comment se comportait-il?
Concrètement, Diogène se masturbait dans un tonneau.
Ouais, Diogène.
Donc, si vous voulez, Zénon, non. Dans Zénon, il y a non.
Non, donc, ce que je n'allez dire, pas jusque-là.
Non, et puis il y a une autre histoire, une histoire de soupe aux lentilles, là, où Cratès lui a demandé de porter une soupe aux lentilles dans une marmite, et puis il avait honte de porter cette soupe aux lentilles, donc il l'a cachée sous son manteau vaguement, et puis Cratès, voyant cela... d'un coup de bâton a cassé la marmite.
Parce qu'il fallait pas trop manger, c'est ça?
Non, pas du tout. C'est que t'as honte. Bah moi, je vais te casser le truc comme ça. Tu vas voir que ça va se voir. Ah, et donc, ce qui s'est vu, c'est que la soupe aux lentilles a coulé le long des jambes de Zénon, qui essayait désespérément de la cacher. Enfin, c'était pire que tout. Et Cratès a dit un truc du style, bah ça n'est que cela ou quelque chose comme ça.
Et c'est ça, donc, vous voyez, c'était censé montrer qu'il n'avait pas l'audace ou l'indépendance à l'égard des normes sociales suffisantes pour être cynique, en quelque sorte, parce qu'il n'était pas capable de se comporter de manière indécente comme un cynique. Et ça,
ils étaient pauvres.
Zénon, oui.
Zénon, Cléon.
En même temps, il est dit que c'était un marchand et qu'en fait, il aurait atterri à Athènes à la suite d'un naufrage, ou peut-être pas à la suite d'un naufrage, mais simplement parce qu'il venait à Athènes pour vendre des choses. Donc, c'est pas évident qu'il était pauvre. Il était pas athénien.
Mais peut-être qu'il est devenu. Parce que dans Diogène Laërce, ils disent quand même qu'il avait un petit manteau tout sobre et tout ça.
Austère, mais il n'était pas forcément pauvre. Surtout qu'après, il était proche du pouvoir macédonien. Donc, je ne pense pas qu'il avait il était pauvre au sens involontairement pauvre, vivant dans contraint de vivre dans le dénuement.
Il y a une chose très jolie, si je puis me permettre.
Je vous en prie.
Je trouve, c'est que Zénon... On dit, pour certains, il y a l'histoire du naufrage, il y a l'histoire qu'il a entendu les mémorables de Xénophon un jour, et que ça a fait, c'est comme ça qu'il est venu à la philosophie, mais qu'il avait consulté un oracle. Et l'oracle, en fonction des traductions, lui aurait dit qu'il fallait qu'il fréquente les morts. Et en fait, une autre traduction, c'est qu'ils deviennent de la couleur des morts. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait étudier les anciens. C'est assez beau, non ?
Attendez, parce que étudier les anciens, ça nous fait devenir de la couleur des morts ?
Ben, en tout cas, c'est une interprétation possible.
L'autre, c'est qu'à force d'être sobre, on devient un peu pâle. Hein. On mange pas beaucoup, on se repose peu. Enfin, je vous laisse, c'est vous les spécialistes. J'ai une dernière question liée à cet environnement athénien philosophique. Le portique, qui est l'école de Zénon, qui est l'école stoïcienne, c'est en pleine rue aussi, un peu comme Diogène sur ce point. On philosophe, un peu comme Socrate aussi. On philosophe dans la rue, puisque le portique, c'est pas du tout comme le jardin d'Épicure, au même moment où l'école épicurienne se fond dans un certain retrait. Au contraire, Frédéric Ildefonse, pour les stoïciens, c'est important d'être au contact de tout le monde.
En tout cas, le portique était ouvert, que je sache. Hein. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une ouverture et c'est important.
Il y avait une dimension politique, c'est aussi ça ma question.
Il y a une politique stoïcienne, mais je ne sais pas si c'est là qu'on doit
aller
tout de suite, d'emblée. Mais bon, ça va loin. Il y a une politique, mais il y a aussi un cosmopolitisme stoïcien. Donc c'est...
On en parlera plus demain, parce qu'on parlera de Sénèque, qui connaissait bien les épicuriens aussi, le jardin retiré, c'est autre chose que le portique des stoïciens au contact de tout le monde.
En même temps...
Et nous évoquerons cela.
Ouais. Pardon, je vous interromps. C'était juste que Jacques Brunswick avait souligné que c'était important de voir que les épicuriens, en un sens, ils étaient très liés à un maître qui est Épicure, et d'ailleurs on dit les épicuriens. Tandis que les stoïciens, on ne dit pas les zénoniens, les chrysippéens ou les cléantiens, on dit les stoïciens. C'est-à-dire que le nom de la philosophie ne vient pas d'un maître, mais du lieu de l'enseignement.
Stoa, le portique.
Et ça dit quelque chose, ça aussi. Et en fait,
ça dit quoi ?
Moi, ce que je trouve un petit peu paradoxal, c'est que souvent, on se représente les épicuriens comme des gens beaucoup plus cool que les stoïciens. Et en fait, on n'a pas tort, ils sont plus cool.
Non, mais vous rigolez.
Non, mais attends.
Je veux dire, pour tout le monde, peut-être qu'on se trompe complètement, mais pour nous aujourd'hui, parce que quand même, ça dit quelque chose. L'opinion globale qu'on a des stoïciens, c'est être stoïque, c'est,
non, c'est vrai.
Savoir s'ouvrir, être modéré, tenir bon, savoir ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, avoir de la volonté, faire triompher la vertu sur ses passions. C'est pas cool du tout, hein.
C'est pas cool, mais ce que je veux dire, c'est que les épicuriens ont la réputation d'être plus cool, et ils le sont, mais ils appellent leur école du nom du maître, ils ont une espèce de culte du maître, ils sont beaucoup plus orthodoxes que ne sont les stoïciens.
Les épicuriens sont plus orthodoxes.
Ça, c'est Jacques Brunswick qui le soulignait dans un texte formidable qu'il a écrit sur les stoïciens. Et il disait, oui, c'est ça, c'est-à-dire que les stoïciens, quoique austères, quoique terriblement austères, en un sens, ils ont une forme de souplesse que n'ont pas les épicuriens, qui sont plus dans l'orthodoxie à l'égard d'Épicure.
Vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, Thomas Benatouil ?
Sur ce point, pas forcément, mais sur la question du portique, etc., je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est moins le portique ou le jardin que la localisation dans la ville. C'est vrai que si vous allez à Athènes aujourd'hui et que vous regardez les restes de la Stoa Poikile, c'est à l'endroit le plus touristique d'Athènes, c'est tout près de l'entrée du parc archéologique où il y a l'ancienne agora, etc. Alors que les endroits où s'installaient Platon, Aristote, Épicure pour philosopher sont des lieux qui sont loin du centre-ville. Donc, parce que Aristote aussi, il était dans près d'un portique, mais c'est un portique qui est à l'écart du centre-ville proprement dit.
Le lycée, hein. C'est ça.
Oui, voilà. Et l'académie, c'est beaucoup plus loin. Et donc, ça dit que c'est probablement quelque chose. C'est-à-dire que je pense pas que les stoïciens philosophaient dans la rue, au sens où vraiment ils étaient directement au contact sur l'agora, au contact des gens. Mais enfin, ils étaient dans le centre. Et donc il y a un lien, il y a pas l'idée que le philosophe doit être complètement à l'écart. Alors que, et d'ailleurs on le voit dans la description des philosophes académiciens stoïciens à l'époque, les académiciens, ils sont retirés à l'académie. Il y a même des textes sur le fait que certains ne venaient au centre-ville que dans des cas très particuliers, quand il y avait un festival pour voir les pièces de théâtre, etc. Donc une fois par an, le chef de l'académie, Xénocrate, venait à la ville. Alors que effectivement, les stoïciens, donc c'est un peu plus tard, mais effectivement, les stoïciens, ils étaient là au cœur de la ville pour philosopher. Ça ne veut pas dire dans la rue, hein, mais ça veut dire dans un endroit qui n'est pas
tout à fait fermé,
qui n'est pas isolé.
Voilà. Alors, je vous propose, vous allez garder la parole, Thomas Benatwyl, puisqu'on va parler du lien entre Zénon, fondateur du stoïcisme, et les sceptiques, avec en particulier un grand disciple du sceptique Pyrrhon, qui s'appelle Arcésilas, et qui est avec lui à l'Académie. Alors, bien plus tard, Cicéron a raconté, a expliqué ce que voulait penser Zénon, et Zénon, dans le texte que vous allez entendre de Cicéron, pense qu'on peut, dans sa main, tenir du savoir, de la vérité. Or, c'est précisément ce que les sceptiques ne pensent pas. En tout cas, c'est ce débat qu'on va essayer de mettre en scène. Écoutez donc cet extrait des Académiques de Cicéron.
Personne ne connaît rien sinon le sage. Zénon le démontrait par des gestes. Il montrait sa main ouverte, les doigts étendus. « Voici la représentation », disait-il. Puis il contractait légèrement les doigts. « Voici l'assentiment ». Puis il fermait la main et serrait le poing en disant « Voici la compréhension ». C'est d'ailleurs d'après cette image qu'il a donné à cet acte un nom qui n'existait pas auparavant, celui de catalepsis. Puis, avec la main gauche, qu'il approchait, il serrait fortement le poing droit en disant « Voici la connaissance que personne ne possède sinon le sage ».
Merci au réalisateur Colin Gruel qui nous propose cette lecture de Cicéron. Cicéron évoquant donc Zénon, fondateur du stoïcisme à Athènes. La connaissance, le sage peut la posséder. Voilà ce que Cicéron dit de la conviction de Zénon. Thomas Benatwyl, est-ce précisément ce que les sceptiques de l'époque réfutent ?
Oui, alors il y a effectivement, on parle souvent à propos des stoïciens du débat avec les épicuriens, mais en fait, si on regarde le tout premier stoïcisme comme Zénon, le grand débat c'est avec l'académie, les académiciens, parce que à partir d'un certain moment et donc de Arcésilas dont vous avez parlé tout à l'heure, les académiciens font une sorte de tournant sceptique. C'est-à-dire que ils pensent que ils considèrent que la philosophie doit avant tout insister sur la difficulté voire l'impossibilité pour l'être humain d'accéder à la connaissance. Et là, pour replacer ça un peu dans un contexte philosophique plus large, c'est un peu un débat sur le sens du socratisme. Parce que Zénon, c'est un héritier de Socrate. Frédéric a dit tout à l'heure qu'on raconte qu'il a été converti à la philosophie en lisant les mémorables de Xénophon qui parlent de la vie de Socrate et des pensées de Socrate. Voilà. Arcésilas, c'est quelqu'un qui est à l'Académie. L'Académie, elle a été fondée par Platon qui se présente lui-même comme le grand disciple de Socrate. Et donc, il y a une sorte de grand conflit, de grand débat sur qu'est-ce que c'est être socratique d'une certaine manière. Et comme le montre le texte qui vient d'être lu, Zénon et le stoïcisme pensent qu'en fait, on peut accéder à la connaissance, que l'être humain a les ressources, a les facultés pour connaître, et même, pas seulement pour connaître dans un sens faible, mais pour accéder à la science, au savoir, hein, épistémé en grec. Alors certes, comme le dit bien le texte qui a été lu, seul le sage peut accéder à la science, donc c'est très peu de monde, voire en fait c'est une sorte d'idéal. Bon, mais enfin, c'est possible.
Alors que les sceptiques disent quoi exactement ?
Alors pour accéder à la connaissance, il y a un moyen qui est ce que le texte qui vient d'être lu appelle la compréhension, la représentation compréhensive, fantasia cataleptique. Et comme le texte le dit bien avec l'analogie avec la main, qu'est-ce que ça veut dire la fantasia cataleptique ? Catalepsie, c'est saisir, tenir fermement. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il utilisait la métaphore de la main, parce que quand on serre le poing, on tient quelque chose. Et donc la représentation compréhensive, c'est ça, c'est une représentation, hein, par exemple d'un objet sensible devant nous, je sais pas, d'une...
Ce micro...
Oui, voilà. Hein.
Existe,
et là, j'ai une représentation compréhensive de ce micro, et donc je peux lui donner mon assentiment, c'est-à-dire je la reconnais comme vraie, et à partir de toutes les représentations compréhensives que je peux avoir, qui vont être de différents types, je peux construire une science, hein, et comme le dit le texte, la science, c'est quand le point serré est recouvert par l'autre main. Donc, c'est le lien entre différentes représentations compréhensives qui, connectées les unes aux autres et s'appuyant, se confirmant les unes les autres, finit par constituer un savoir complet. Et idéalement, c'est chez le sage, hein, ça donne une espèce de savoir total de l'ensemble de la réalité où on est totalement infaillible. Puisque, en fait, on a connecté entre elles toutes les vérités auxquelles on peut accéder et on peut jamais être trompé, hein, que ce soit par des arguments fallacieux qui viennent des sophistes ou par des illusions. Imaginons que je rêve et que...
Donc c'est ça que disent les sceptiques.
Ça, c'est ce que disent les stoïciens.
Le micro, nous ne sommes pas certains
de... Alors, les stoïciens disent qu'on peut atteindre la connaissance à partir de ces blocs de vérité que sont les représentations compréhensives ou ces blocs de certitude. Et les sceptiques disent en fait non, c'est pas possible, et vous trahissez d'une certaine manière l'esprit de Socrate, parce que Socrate, c'est celui qui critique les opinions, c'est celui qui montre qu'on n'a jamais vraiment la connaissance du bien et du mal et d'autres choses, et donc nous les académiciens, Arkésilas par exemple, nous on va vous montrer qu'en fait, hein, même vous croyez savoir, vous prétendez avoir des certitudes via les représentations compréhensives, mais en fait, non. D'où l'ensemble des arguments sceptiques très connus sur le rêve, sur le...
Sur le sens qui nous trompe,
voilà,
etc.
Voilà, c'est ça. Et donc, le débat va être sur est-ce qu'on peut vraiment avoir une représentation compréhensive ? C'est-à-dire, quand je vois ce micro, que je le regarde sous différentes coutures et que je vérifie que c'est pas juste un micro, mettons,
en faux micro
ou même une illusion, donc je peux le toucher, je vois que, etc. Est-ce que je suis absolument certain que j'ai une représentation vraie, hein? Et les académiciens inventent des tas d'arguments pour dire qu'on ne peut jamais être absolument certain qu'on est dans la vérité. Et donc, on peut pas utiliser ces petits blocs de certitude pour construire après quelque chose qui va être la science.
La clé, Frédéric Ildefonse, c'est la notion de représentation. Est-ce que, enfin, j'ai envie de vous dire sceptiquement, comment se fait-il que Zénon et ses amis stoïciens soient si sûrs que nous pouvons avoir une représentation correcte et par là, du savoir?
Alors, vous avez raison de dire vraiment que la clé, c'est la représentation, déjà. Parce que la représentation, donc, c'est fantasia en grec, c'est ce par quoi quelque chose m'apparaît. Donc, les stoïciens disent aussi, c'est un pathos dans l'âme, c'est quelque chose que je subis. C'est pour ça que dans la deuxième étape, il y a une reprise active. L'assentiment, c'est actif. Donc, en effet, si on est sceptique, on va s'arrêter rapidement. Si on est stoïcien, on va continuer. Alors, si on peut être sûr, c'est que c'est à plusieurs degrés, si j'ose dire. C'est d'abord, il croit à l'évidence. C'est-à-dire qu'il y a une possible, il y a quelque chose dans la représentation, pourvu qu'elle soit compréhensive, soit qu'elle me parvienne comme compréhensive, soit que je m'arrange pour qu'elle le devienne, oui, en faisant varier l'éclairage, en me positionnant mieux, en faisant attention à ce que mes sens soient en bonne forme. Eh bien, la représentation compréhensive, elle est vraiment le critère du vrai. Elle est index sui, pour le dire avant la lettre. Elle se montre elle-même et elle est comme la lumière. Et d'ailleurs, il y a fausse lumière dans Fantasia. C'est-à-dire que de même que la lumière se montre elle-même et montre l'objet, de même la représentation montre l'objet et se montre elle-même. D'ailleurs, au passage, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure, l'objet de la représentation,
oui,
pour les stoïciens, donc le phantaston en grec, de la fantasia, si j'ose dire, c'est une situation. C'est-à-dire, je n'ai pas une saisie stricte du micro en tant que tel.
Devant vous, là.
Voilà.
Vous voyez tout, la table, les écrans.
Il y a toutes sortes de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que, alors que Zénon disait que la représentation est une inscription dans l'âme, oui. au sens de l'empreinte, vraiment, tuposis en grec, comme un sceau qu'on imprime. Chrysippe, lui, qui était, comment dire, un redoutable philosophe et dialecticien, au point qu'on a dit que c'était le refondateur du stoïcisme, lui disait que c'était une altération. Parce que justement, dans une représentation, il y a plusieurs choses. Et que si c'était des empreintes, il y aurait du brouillage. Voyez, parler d'une altération, ça veut dire qu'il y a une sorte de bouger possible, une sorte de multiplicité intégrée possible, tandis que des empreintes superposées, ben on n'y voit plus rien. Donc en tout cas, pour revenir à la question, la fantasia cataleptikae, c'est celle qui fait foi absolument de la situation. Et finalement, si on peut en être sûr, outre l'évidence, c'est que, comme le disait une grande dame du stoïcisme dont j'ai suivi les cours, Claude Imbert et Thomas aussi, la nature nous a donné les bonnes images. Et il y a quelque chose dans le caractère providentiel de la nature qui a fait qu'en effet, on puisse en venir, sous certaines conditions, qui ont trait aussi à la santé de nos sens, à une représentation compréhensive qui comporte en elle toutes les caractéristiques d'une situation donnée.
Il y a donc du logos dans le monde et dans nos têtes, si je vous comprends bien, Frédéric Ildefonse. Et on va poursuivre avec vous cette analyse de toutes les implications de ce logos. Diogène Laërce, donc historien des philosophes de l'Antiquité, qui a vécu, pense-t-on, au début du IIIe siècle de notre ère, est revenu dans son fameux ouvrage « Vie et opinion des philosophes illustres » sur les stoïciens grecs anciens, sur Zénon, et il nous dit que oui, le logos, la raison, c'est ce qui fait que pour le stoïcisme ancien, trois parties peuvent être investies par la philosophie, la physique, l'éthique et la logique. Je vous propose d'écouter cet extrait de Diogène Laërce et nous réfléchirons ensuite à ce problème. Pourquoi les certitudes logiques, scientifiques font-elles aussi, enfin quelque chose permet aussi une véritable éthique? Écoutez.
La doctrine philosophique stoïcienne se divise en trois parties. La physique, l'éthique et la logique. Telle est la division que Zénon a donnée le premier dans son traité de la raison, puis Chrysippe dans son premier livre du traité de la raison et dans le premier livre des physiques. Ces parties, Apollodore les appelle des lieux, Chrysippe et Eudromos des espèces, d'autres des genres. Les stoïciens comparent la philosophie à un animal. Ils font correspondre la logique aux os et aux muscles, l'éthique aux parties charnues, la physique à l'âme. Ou encore à un œuf. La partie extérieure est la logique, puis vient l'éthique et tout à l'intérieur, la physique. Ou encore un champ en pleine production. La clôture qui l'entoure est la logique, les fruits, l'éthique, la terre et les arbres, la physique. Ou enfin, à une ville bien fortifiée et gouvernée selon la raison. Aucune partie n'est séparée des autres, comme quelques-uns le disent, mais elles sont unies. Aussi les unissent-ils dans leur enseignement.
Tout est très bien organisé chez les stoïciens, Frédéric Ildefonse, grâce au logos, une sorte de rationalité immanente et qui trouve un écho en nous. Mais comment peut-on comprendre que des certitudes du savoir logique ou du savoir en physique, eh bien, on puisse en déduire aussi une éthique solide? En quoi les certitudes logiques produisent-elles de la morale, si je puis me permettre? Comment ça marche?
Alors moi, je me rappelle que dans un de mes premiers cours de philosophie, je crois, enfin là, en terminale en tout cas, on avait étudié un sujet qui était « Faut-il être savant pour être sage ?»
La question est bien mieux posée que je viens de le faire. Non,
c'est juste que ça me fait penser à ça. Et en fait, pour les stoïciens, il faut être savant pour être sage. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas savant, vous ne serez jamais sage. Et d'ailleurs, comment dire, à propos des parties du logos philosophique, doctrine philosophique ou discours philosophique, il y a un témoignage justement de Plutarque qui dit que même la physique, en fait, l'enseignement physique, c'est comment dire, elle va servir, est au service de la discrimination du bien et du mal. Donc quelque chose qui, enfin, du bon et du mauvais. Donc quelque chose qui a à voir
avec du savoir.
Avec oui, c'est-à-dire que la physique elle-même, comment dire, sert la dimension éthique qui a à voir avec le bien, le mal, enfin, ou le bon et le mauvais. Il faut dire d'autres choses aussi. C'est que, bon, déjà, quand on parle de vertu, moi, je trouve qu'on ne sait vraiment plus ce que ça veut dire.
Aujourd'hui, vous le dites?
Non. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'entends vertu, c'est comme si je me mettais en pilotage automatique.
Parce qu'à force de le dire, oui, ça signifie qu'on n'y est pas. Hein.
Alors, dire pour vertu, en grec, ça se dit arrêter. C'est pas pour faire du grec que je dis ça, mais c'est que arrêter, c'est le substantif qui correspond à agathos, qui veut dire bon. Donc en fait, il y a un lien entre ce qui est bon et la vertu. La vertu, c'est le substantif qui correspond à l'adjectif bon. Et pour cela, il faut avoir des connaissances stables. Et ces connaissances stables, dans un premier temps, et c'est la place de la logique dans les comparaisons stoïciennes qui viennent d'être lues, c'est au prime abord la logique qui va nous les donner.
Donc le bon relève d'un savoir, oui. C'est d'un savoir rationnel. C'est pas, par exemple, par le sentiment,
non.
Par l'intuition,
non.
Par le lien dans ce qu'il peut avoir parfois de non rationnel, lien autrui qu'on sent, ce qui est bon. C'est vraiment du savoir rationnel, le bon.
Enfin, de toute façon, j'y pensais tout à l'heure quand vous parliez du logos. C'est vrai que souvent, quand on dit logos, on pense à discours, on pense à raisonnement, etc. Mais comme vous l'avez dit, dans le stoïcisme, le logos, il est immanent. C'est-à-dire, le logos, il est aussi dans la physique. Et justement, Claude Imbert disait que le système stoïcien, puisqu'il y a un système stoïcien, c'est celui qui a porté vraiment à sa perfection l'exploitation de la polysémie du mot logos. C'est-à-dire que le mot logos est extrêmement polysémique, raison, discours, langage, arguments, etc. Et vraiment, le système stoïcien a porté à son point de paroxysme, de perfection plutôt, l'utilisation philosophique de cette polysémie.
Peut-être Thomas Benatoulis, cela explique-t-il la confiance dans la volonté. Alors peut-être que le mot n'est pas bien choisi, c'est peut-être un mot de moderne. Néanmoins, on a l'impression que chez les stoïciens, ils savent exactement ce qu'il faut faire sur le plan moral. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est dégager la volonté pour qu'elle applique le principe rationnel moral. Bon, alors je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensent.
Alors, si dit comme ça, oui, parce que si on subordonne bien la volonté au savoir, c'est-à-dire il y a une représentation du stoïcisme comme être stoïque, serrer les dents face à la douleur, face aux événements difficiles, etc., qui, en fait, fait complètement disparaître la dimension du savoir, puisqu'au fond, pour serrer les dents face à la douleur, d'une certaine manière, il y a juste besoin d'une forme de courage et de volonté. Et le stoïcisme, c'est pas du tout ça, hein, puisque, comme on vient de le dire, hein, l'idée qu'il faut être savant pour être sage, bah là, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le socratisme, hein, celui qui a dit que pour agir, il fallait avoir une connaissance du bien et du mal, c'est Socrate. Alors Socrate, en tout cas dans les dialogues de Platon, il a l'air de jamais arriver à la trouver et de montrer à tout le monde que on croit l'avoir mais on ne l'a pas. Les stoïciens pensent qu'on peut avoir ce savoir du bien et du mal. Hein. Et donc c'est pour ça que effectivement ils pensent que l'éthique s'appuie sur un savoir. Et j'insiste sur le fait que l'éthique ne s'appuie pas seulement sur la physique et la logique. Hein. L'éthique, elle a un savoir propre. Il y a un savoir de la nature humaine, il y a un savoir de la psychologie humaine à partir duquel on construit l'éthique. Il ne s'agit pas juste de déduire l'éthique, soit de considérations théologiques, même si ça joue un rôle, hein, le fait que le monde est tel qu'il est, ça a des conséquences éthiques. Mais il y a des arguments éthiques stoïciens dont vous parlerez demain ou après-demain avec des auteurs comme Sénèque et Épictète qui s'inspirent de ce que disaient les premiers stoïciens. Et donc la logique là elle joue un rôle très important. On le voit dans les comparaisons qui ont été citées à l'instant. Hein. Dans l'œuf, c'est la coquille. Dans le champ, c'est les barrières qui clôturent le champ. Et donc, la logique, en fait, elle joue un rôle de protection. Hein. Et dans la comparaison avec l'animal, la logique, c'est les os et les muscles. Donc, la logique, elle donne la structure, d'une part. C'est-à-dire, elle permet d'articuler, de structurer de manière systématique les doctrines qui ne sont elles-mêmes pas forcément logiques. Hein. Les différentes doctrines éthiques, il faut les enchaîner de manière rigoureuse pour comprendre de manière parfaite ce qu'est le bien, ce qu'est le mal et comment il faut agir. Voilà. Et la logique joue aussi un rôle de protection. C'est-à-dire que quand il y a des sceptiques, des sophistes ou des gens qui viennent utiliser des arguments pour essayer de vous détourner du bien, pour essayer de vous faire croire que finalement, peut-être que c'est plutôt ça qu'il faut faire que ça, etc. Le sage stoïcien, du fait qu'il maîtrise la logique, dans notre sens à nous de logique, c'est-à-dire il a une capacité argumentative parfaitement rigoureuse, eh ben, en fait, il va jamais se faire coincer par des arguments. Il est infaillible, il sait parfaitement ce qu'il fait et il peut jamais être trompé, soit comme on l'a vu tout à l'heure, par des illusions, des représentations qui ont l'air vraies mais qui ne le sont pas, soit par des gens qui essayent de l'embobiner avec des discours qui ont l'air vrais mais qui en fait reposent sur des sophismes.
On va revenir à l'exemple que vous avez donné de la douleur. Posera la question de savoir si c'est vraiment une philosophie du bonheur ou simplement une philosophie de la morale, dirait-on en latin, de l'éthique, du devoir, et pas du tout du bonheur. Je vais laisser cette question pour la fin, si vous le voulez bien, parce que là, il faut quand même, Frédéric Ildefonse, que vous nous expliquiez un champ important de vos travaux, qui est que les stoïciens, croyant dans la logique, ont beaucoup réfléchi au langage. Vous m'avez même dit, avant cette émission, que ce sont les vrais inventeurs de la grammaire. Pouvez-vous nous expliquer cela un peu ?
Bon, c'est vrai que c'est un peu vite dit, ma formulation est un peu provocante, mais elle est fondée aussi, au sens où, dans leur logique, ils développent des enseignements que nous reconnaissons comme des enseignements qui ont trait à la grammaire. Michael Frede, qui est un grand spécialiste du stoïcien, avait parlé d'une syntaxe des lecta chez les stoïciens. Le lecton est un objet un peu particulier dont je vais essayer de parler un peu tout à l'heure. Donc, en tout cas, il y a une dimension logique, argumentative, mais il y a également une dimension simplement syntaxique.
Donc, lecton, parce que sinon on va pas bien comprendre. Le lecton, si j'ai bien compris, c'est la chose qui est dite.
Oui, c'est ça.
Voilà. On peut dire comme ça.
Voilà.
Et donc la chose qui est dite, elle s'articule à une autre chose qui est dite, etc. Et ça fait après une syntaxe, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que les stoïciens, dans leur logique, bon, déjà leur logique, elle comprend la dialectique et la rhétorique. La rhétorique, c'est, a-t-on dit, quelque chose qu'on pouvait apprendre des stoïciens si on voulait apprendre à être muet. Donc on peut dire qu'ils n'étaient pas très fleuris sur cette question. Ils ne sont pas généralement fleuris. Colorés, mais pas fleuris. Et donc, la dialectique. La dialectique, il faut reconnaître cela aux stoïciens aussi. Souvent, on l'ignore, en fait. En fait, ils ont inventé la dimension de la distinction entre signifiant et signifié.
Mais oui, c'est pas Saussure qui a inventé ça. Hein.
Voilà. Et ils ont même inventé le référent. C'est-à-dire que, mais bon, ça touche à d'autres choses, mais ça touche aussi à un problème de traduction dans un certain texte de Sextus Empiricus, ou ce qu'on peut traduire comme référent, à savoir le mot thuncanon, en fait, c'est peut-être juste, en grec, celui qui porte le nom. Donc on n'est pas très sûr que ce soit ce mot-là, mais bon, ça a pu être interprété comme cela. Donc en tout cas, signifiant et signifié. Signifiant, il y a toute une série de réflexions sur ce qui est de l'ordre du signifiant, et signifier, c'est justement là où vient se loger le petit lecton. Et les signifiés, figurez-vous, et j'y reviens de manière un peu obsédée plutôt, l'étude des signifiés, elle commence par l'étude des représentations et des signifiés qui subsistent à partir d'elles. Donc vous voyez, là, la représentation, elle est encore là. Et il faut dire aussi que ces représentations, dans le cas des humains, sont dites logiques. Ça veut dire que toutes nos représentations sont logiques.
Évidemment, si on n'accepte pas ça, on a du mal à épouser la philosophie stoïcienne.
Oui, mais ce que je veux dire, ça veut dire que n'importe quelle représentation est logique. D'accord, il y a pas une
donc
sorte
même
de...
celle d'un rêve, par exemple.
Oui,
y a mine pas, de rien, il pas... y a une organisation.
Non, mais il y a pas d'antéprédicatif, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous êtes d'emblée dans du contenu représentatif, et ce contenu représentatif, il est propositionnel. C'est-à-dire qu'en fait, la représentation, ça n'est pas quelque chose que je vais pouvoir commenter seulement en disant que c'est la représentation du micro, même si dans certains textes, on l'a fait aussi pour un certain Dion, etc. Mais c'est toujours un agent, enfin une situation, qui décrit une action et ses coordonnées, si j'ose dire. Le lecton, il intervient là, parce que le lecton, c'est le lecton qui correspond à une phrase normalement complète. On distingue entre les choses dites complètes et les choses dites incomplètes.
C'est très technique, je suis désolée.
Mais en fait, c'est très simple.
C'est dommage qu'on connaisse si peu.
Prenez une situation. Oui. Vous avez devant nous un chat qui mange une souris, au hasard.
Oui, au hasard.
D'accord ?
Oui.
Si je dis « mange » ou si je dis « mange la souris », quelqu'un va me dire « mais qui mange la souris ?» Et là, je vais dire « le chat ». Donc, ça veut dire, dans le premier cas, « mange », c'était incomplet parce que je savais pas ce qui était mangé ni ce qui mangeait. Si je dis « mange la souris », il y a une sorte de noyau prédicatif qui décrit la scène qui est en train de se passer. Et si je lui assigne l'agent, j'aurai une phrase complète. Et ça, c'est un lecton complet.
La logique est correctement déployée. Alors, je vais revenir maintenant au problème éthique. Si je vous ai bien compris l'un et l'autre, la représentation... permet de savoir avec certitude, tel un savoir, ce qui est bien et ce qui est mal. Et il faut l'appliquer, et c'est ça être stoïcien, c'est mettre toute sa volonté en jeu pour appliquer le bon et le bien qui sont eux aussi connus logiquement. Mais donc, Thomas Benatouil, tout à l'heure vous avez parlé de la douleur. C'est vrai que dans les représentations communes du stoïcisme, on dit ah, être stoïque, c'est lutter contre la douleur, c'est-à-dire... essayer de pas être ravagé complètement par elle, et donc c'est quand même l'idée d'une philosophie du bien-être. Mais on aurait tort de croire que c'est là du stoïcisme. Si je vous ai bien suivi, le bonheur n'est pas le sujet premier du stoïcisme, c'est le devoir, le premier sujet du stoïcisme.
Alors, si on regarde comment est organisée l'éthique stoïcienne, comme la plupart voire la totalité des éthiques dans l'Antiquité, le sujet, c'est le bonheur. Je veux dire, les stoïciens disent que il s'agit de que l'éthique nous mène au bonheur, nous mène à la fin, au souverain bien, et que c'est à partir de l'idée de fin, de souverain bien ou de bonheur qu'on justifie le fait, les différentes actions qu'on fait, le fait de développer la vertu et la sagesse, etc.
Donc les méchants, les immoraux ne sont pas heureux.
Non, et c'est ça. Et la grande thèse stoïcienne, c'est que en fait, la vertu suffit au bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que la vertu pour être heureux. Donc même si on est pauvre, même si on est on souffre, par exemple, du fait de la maladie, même si on est quelqu'un qui n'est pas dans une position sociale prestigieuse, enfin, toutes ces choses qui sont apparemment des maux, M-A-U-X, eh bien, en fait, on peut quand même être heureux.
Donc la douleur, c'est quand même un sujet pour les stoïciens.
Oui, c'est un sujet, non, bien sûr, c'est un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le critère fondamental pour argumenter du point de vue en éthique, ça reste le bonheur. C'est-à-dire, il n'y a pas l'idée, comme vous avez posé la question sur le devoir, il n'y a pas l'idée que le devoir aurait une justification indépendante du bonheur, qui serait...
En fait, mon devoir, c'est de ne pas me laisser envahir par la douleur, par exemple. Et donc, il y a une correspondance entre une attitude éthique et un bonheur consécutif.
Oui, c'est ça. Mais la raison pour laquelle le devoir, c'est il faut pas se laisser envahir par la douleur, c'est parce que la douleur n'est pas un mal. Et ça, si vous avez suffisamment développé, en suivant les règles de la logique, les notions du bien et du mal qui se sont formées dans votre esprit, à partir d'un certain nombre de perceptions que vous avez eues, de représentations que vous avez eues, si vos représentations, vos notions du bien et du mal sont suffisamment bien développées de manière suffisamment rigoureuse, selon les stoïciens, vous comprenez que la douleur n'est pas un mal, et le plaisir n'est pas un bien, et du coup... Quand vous êtes dans une situation douloureuse et que vous êtes tenté de penser « je suis malheureux, je suis malheureuse parce que je ne suis plus en bonne santé », mettons, eh bien, en fait, selon les stoïciens, vous n'allez pas donner votre assentiment à cette proposition, à cette représentation vraisemblable, hein, c'est vrai que c'est vraisemblable, l'idée que quand on souffre, on est malheureux. Hein. Mais selon les stoïciens, justement, c'est pour ça l'importance de la logique. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas se laisser tromper par des illusions. Ça vaut aussi en éthique. C'est-à-dire, dans le domaine éthique, le sage, c'est celui ou celle qui, quand une représentation très vraisemblable du type « je souffre et donc je suis malheureux » va se présenter à lui ou à elle, elle va pouvoir refuser son assentiment en disant « non, je ne vais pas donner mon assentiment à l'idée que parce que je souffre, je suis malheureux, parce que je sais que la douleur n'est pas un mal et que donc je ne suis pas privé d'un bien en souffrant.
Bon, » toujours
ça
le savoir.
Paraît très logique comme ça, mais ouais. Après c'est incarné, hein, c'est-à-dire que ça donne lieu à des... Ça repose sur une analyse. C'est une analyse psychologique. Les stoïciens pensent que quand vous toutes vos actions, toutes vos passions, etc., sont liées au fait que vous donnez votre accord à une certaine interprétation de la situation.
Et donc, puis il y a toujours la réponse, c'est-à-dire que si je vous comprends bien, malheureusement, ça va être un peu la dernière couleur de cette émission parce que ça touche à sa fin. Mais Frédéric Ildefonse, on peut toujours savoir ce qu'il y a à penser dans une situation parfois aussi dure que celle de la douleur, moralement complexe. Enfin, on sait toujours pour le stoïcien ce qu'il faut penser, ce qu'il faut comprendre, et donc comment il faut se comporter. On peut dire ça, c'est magnifique. Et puis en même temps, c'est une confiance à la fois dans l'intellection et dans la volonté qui est extraordinaire.
Oui, mais il faut préciser aussi qu'il y a un soubassement cosmologique à tout ça. Il y a un soubassement cosmologique à tout ça. Et que le cosmos est rationnel. Et que il faut rappeler le mot de Zénon qui était que la fin éthique, c'était de vivre en conformité. Zen homologoumenos. Alors on disait en conformité avec quoi ? En accord avec quoi ? En accord avec la nature. Donc là, il y a des débats pour savoir si c'était Cléante ou Zénon qui disait ça. Et il y a eu d'autres interprétations qui étaient vivre en conformité avec ce qui arrive. Avec les événements qui arrivent par nature. Et c'est là aussi où la logique importe, et si on avait plus de temps, on pourrait parler de la notion d'événement chez les stoïciens, justement, et de la manière dont comment la notion d'événement intervient par rapport à la construction des phrases dont je parlais, par rapport à la concaténation de ces phrases en science, pour finir, ce qui est permis par un certain type de représentation qui est à nouveau la représentation humaine. On a dit qu'elle était logique, quelle qu'elle soit. Elle est, disent les stoïciens, on le sait par Sextus Empiricus, métabatiquée. C'est-à-dire qu'elle opère des passages. Et il en conclut que, justement, la structure logique, par excellence, c'est le signe, si ceci, alors cela. Et c'est la notion de consécution qui permet, justement, qu'on puisse faire une concaténation de raisonnements et de phrases.
I am a man, I've been working all my days. This is my accounting of my means and of my ways. More years are behind me now than years that are ahead. Looking back, I feel this is my story to be said. I faced my father down inside the hallway of our home. 18 years of pain upon my body to the bone. Demons lived inside of him, they forced him to the act. Layers of the bruises to my body was the fact.
Et vous entendez Suzanne Vega, autrice, compositrice, interprète américaine, qui chante ici en 2014 Song of the Stoic. La chanson du stoïque, peut-être du stoïcien, à voir. Merci beaucoup Frédéric Ildefonse, Thomas Benatoui. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Voici à présent la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la corruption, au corruptible plus exactement, et à l'incorruptible. Voici le pourquoi du comment.
Comment peut-on être corrompu. La corruption, le fait d'être corrompu, est évidemment un danger fondamental et quelque chose qui mine en quelque sorte de toutes les sociétés. Et nos sociétés n'en sont pas épargnées, bien entendu. Et c'est quelque chose qui nous effraie pour une, mais aussi peut-être pour deux raisons. D'abord, nous en voyons les effets dramatiques quand la confiance dans les autorités, dans la société en général, s'ébranle par le fait de la corruption. Quand nous voyons aussi qu'il y a des circuits parallèles de pouvoir, de financement, de circulation, de réseaux de toutes sortes qui semblent miner toutes les instances officielles. Mais en outre, quand nous entendons parler de corruption, nous sentons s'éveiller en nous quelque chose comme une fragilité intérieure, comme s'il y avait dans tous les êtres humains quelque chose comme une corruptibilité possible qu'il faut évidemment affronter comme toutes les fragilités des êtres humains, comme toutes les négativités pour y répondre, bien entendu, pour s'y opposer. Qu'est-ce donc en effet que la corruptibilité ? Pourquoi les êtres humains sont-ils corruptibles ? D'une manière générale, quand on parle de corruption, c'est qu'on évoque non seulement une dégradation extérieure qui vient de l'extérieur, une cause qui viendrait de l'extérieur percuter un système, et par exemple à une société, mais prenons aussi un exemple classique, un être vivant. Nous pouvons détruire une pomme de l'extérieur en la mangeant, en la jetant par terre, en la piétinant, elle va être écrasée, réduite en purée ou en compote. Mais la corruption, c'est aussi cette fragilité intérieure qui fait qu'avec le temps, la pomme va se dégrader, va se corrompre. Et d'ailleurs, c'est le sens originel du mot corruption. Par exemple, dans le célèbre traité d'Aristote, de la génération et de la corruption. Les êtres vivants croissent et décroissent. Ils croissent vers leur forme et puis ils ont un principe intérieur de fragilité qui fait qu'ils se corrompent de l'intérieur. La question de la corruption n'est bien entendu pas seulement celle de ce fait biologique, lié à la dégradation temporelle en général. Mais dans la corruption sociale, il y a dans la corruption quelque chose qui nous révèle une fragilité intérieure. Et quelle est cette fragilité intérieure, cette contradiction qui est au cœur de nos sociétés? Il faut la nommer très précisément. C'est bien sûr la tension entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Quand on parle de corruption, c'est que quelqu'un, un corrupteur, vient parler à quelqu'un qui peut être corrompu parce qu'il occupe une fonction définie par des règles, un intérêt général, par exemple, dans les fonctions publiques, un intérêt collectif en tout cas, mais il a aussi un intérêt particulier qui peut entrer en conflit avec cet intérêt général. Et la tentation diabolique, parfois, du séducteur ou du corrupteur, c'est de faire jouer cette contradiction dans le sens de l'intérêt particulier contre l'intérêt général. Ainsi, il y a une fragilité intérieure aux êtres humains qui fait leur corruptibilité. Ils peuvent céder à la tentation de préférer l'intérêt particulier à l'intérêt général. Quelles seront les armes pour empêcher cette corruption, cette corruptibilité? Il faut des armes morales. Peut-être ne suffiront-elles pas. Il faut aussi des armes politiques. Mais le danger le plus profond de tous, celui que désignait Platon dans La République à la fin du livre 8, dans un texte extraordinaire, c'est que les sociétés ont aussi, comme les pommes, comme les fruits, comme les vivants, des fragilités intérieures de dégradation et que les meilleurs régimes peuvent se corrompre de l'intérieur un peu comme les meilleurs fruits s'abîment si on ne les mange pas dans leur date de péremption. Platon disait à cet égard que la corruption du meilleur donne le pire. Le meilleur régime, par exemple pour lui la monarchie éclairée, donne le pire des régimes s'il se renverse en tyrannie absolue. Et de ce point de vue, il disait la corruption du moins mauvais, la démocratie, donne aussi le moins pire des régimes corrompus. La démocratie va donc s'armer contre la corruption, car c'est celui qui doit être le moins corruptible et le plus incorruptible des systèmes.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Axel Dubois, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Bonne année à tout le monde. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.